Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi à 17h30, vous retrouvez le magazine USTL Info. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Patrick Kenis, qui est directeur du SUAIO. 5 lettres qui veulent dire.
Donc, c'est un acronyme assez peu explicite pour, je dirais, le commun des mortels. Hein. C'est le jargon de la technostructure, donc service universitaire. C'est un service commun, le C, universitaire, d'accueil, d'information, d'orientation et insertion professionnelle, ce qui n'apparaît pas dans le sigle, en fait.
Voilà, donc l'information, l'insertion. Alors l'information, c'est pour aussi les personnes qui veulent étudier à l'ILIN ou c'est seulement ceux qui sortent de l'ILIN?
Donc en fait, nous intervenons, je dirais, sur les trois aspects. Il y a toute une action d'information amont, vers les lycéens, vers les personnels enseignants du secondaire, les conseillers d'orientation. Donc tout le personnel du secondaire, les parents d'élèves, bien entendu. Alors, il y a aussi, bien entendu, une fois que les étudiants nous ont rejoints, il y a tout l'aspect d'accompagnement, je dirais, tant en termes de réflexion sur le parcours de formation qu'en termes de projets professionnels et personnels. Donc là, ce sont les étudiants qui sont parmi nous. Et je dirais, sur la phase aval, il y a tout un ensemble d'actions qui ont pour objet d'optimiser pour nos diplômés, je dirais, la transition du diplôme à l'emploi. Et donc nous intervenons sur l'ensemble, je dirais, du spectre, donc du lycéen jusqu'au doctorant, puisque ce SUAIO a aussi comme particularité d'être la structure opérationnelle sur laquelle s'appuie l'association Bernard Grégory, qui a pour mission de favoriser l'insertion des docteurs hors du monde académique, hors de la recherche institutionnelle et publique.
Alors, si on prend le cas des lycéens qui vont entrer l'année prochaine à l'université, ou qui voudraient y entrer, ça dépendra peut-être du bac quand même. Deux questions d'abord. Le bac, on dit, ça ne sert plus à rien, etc. Vous avez une opinion là-dessus?
Ça reste toujours, c'est le premier grade universitaire, alors que ça ne serve plus à rien. Je dirais que par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, il y a une multiplicité d'offres qui sont offertes aux lycéens et le problème, même si ce jargon, enfin ce que je vais dire après est un peu peut-être... nous sommes, que nous le voulions ou non, dans un système qui est de plus en plus concurrentiel, donc il faut être capable de présenter aux lycéens les spécificités et puis ce qu'apporte, et je dirais sur le plan le plus positif, ce que peut apporter cette université en termes de formation d'une part, bien entendu, acquisition de connaissances, mais aussi, là aussi, en termes de construction et de construction du projet, puisque pour, quelle que soit la nature de la formation, l'objectif premier, au-delà encore de l'acquisition d'une culture scientifique au sens large du terme, ça reste pour les usagers, ça reste quand même un passeport pour l'emploi.
Donc si j'ai bien compris, il y a deux enjeux. Le premier, c'est bien sûr de faire que des étudiants viennent nombreux dans une université.
À bon escient.
Et le deuxième, c'est que ces étudiants soient suffisamment de qualité pour garantir le projet et la notoriété de l'université.
C'est vrai d'une certaine façon, mais je dirais que cette université a aussi toute une action, je dirais... dimension sociale également, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'actions qui ont pour but de favoriser, mais d'aider un certain nombre de typologies de lycéens à mieux s'intégrer dans le cadre des formations universitaires. Je pense en particulier à des parcours qui permettent à des étudiants, à des lycéens au départ et ensuite étudiants qui ont obtenu un bac technologique et non pas un bac S ou pas un bac généraliste tout au moins, de quand même pouvoir intégrer l'université avec des chances non négligeables de succès. Donc il y a des parcours spécifiques qui sont mis en place. Et bien entendu, nous, en tant que SUAIO, nous n'intervenons pas dans ces formations, mais bien entendu, nous communiquons et nous participons à l'information sur ce type de formation spécifique.
Alors, le fait que les droits d'entrée à l'université sont relativement modestes, c'est vécu forcément de façon intéressée par les étudiants qui y viennent ou qui veulent y entrer. Il y a quand même énormément de, pas, je ne vais pas dire d'universités privées, il y a des lieux de formation privés qui font payer très cher leurs tarifs. Est-ce que c'est justifié selon vous ?
Justifié. C'est une façon de...
Je vois parfois des prix assez exorbitants.
Bon, je pense à certaines écoles de commerce, ouais, notamment sur...
Notamment sur Roubaix, sur Lille.
À 8 600 euros l'année, voilà. Est-ce que c'est justifié ? Nous ne sommes pas dans cette logique-là, dans l'université, c'est clair. Est-ce qu'il y a effectivement... Est-ce que c'est un mode de sélection, sélection par l'argent et non pas un mode de sélection est-ce que le produit est en rapport, est-ce que la qualité de la formation que nous apportons à l'université est moins bonne que ces formations-là alors que le coût d'inscription est très peu élevé? Je n'en suis pas convaincu, au contraire. Mais le grand problème, c'est que au-delà de ces coûts, c'est finalement que ces structures, qu'elles soient écoles d'ingénieurs ou écoles de commerce privé ou non d'ailleurs, c'est qu'elles ont pour elles la facilité, je dirais, d'avoir une offre qui est extrêmement ciblée, à spectre relativement étroit, et donc qui est très facile, je dirais, à présenter. Alors que si on veut positiver, la richesse de l'offre de formation de l'université n'est pas toujours, comment dirais-je, en termes d'information, quelque chose qui est très, très facile à présenter.
C'est vrai qu'il y a énormément de filières, énormément de formations différentes. Et pour le public, c'est pas forcément... Ouais. À part quand même, le fait qu'il y ait Lille 1, Lille 2, Lille 3, avec quand même des champs de responsabilité quant au contenu un peu différent,
Oui, tout à fait.
Ça aide encore à comprendre. On sait ce que c'est qu'une université sciences technologie, on sait ce que c'est une université littéraire, on sait ce que c'est une université des droits et santé.
Oui, mais
les frontières ont tendance à évoluer.
De plus en plus flou. Et puis lorsque l'on dit sciences et technologie, je dirais pour le je vais mettre des guillemets pour le grand public,
sociales, etc.
Mais justement, oui, ils n'intègrent pas dans cette communication lorsqu'on présente le STL sciences et technologie. Ne pas oublier qu'il y a le secteur sociaux, le secteur sciences éco-gestion, qui font partie de cette université, qui sont aussi des formations scientifiques, même si elles ne correspondent pas au jargon habituel sciences, je mettrai encore une fois des guillemets, sciences dures, mais c'est une part importante de notre université. Dans cette communication un peu trop lapidaire, ce message ne passe pas toujours auprès du grand public. L'ILIN, c'est les sciences.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'avec les trois universités de la région lilloise, l'ensemble des champs de ce qui est essentiel en formation est assuré ?
Tout à fait, oui, complètement. Oui. Il y a des secteurs d'ailleurs où, je veux dire, qu'il y a une redondance, il y a une complémentarité et qui va peut-être, être restructurée, soit dans le cadre du PRES, par exemple. Par exemple, on voit entre biologie et santé, forcément, il y a des connexions étroites, je ne vais pas dire des redondances, mais des connexions étroites entre l'île 2 et l'île 1. Donc là, il y a des choses à, pas restructurer, mais peut-être à présenter de façon plus cohérente, notamment vis-à-vis du grand public.
Donc on a un peu compris l'approche des lycéens. Une fois que les étudiants sont dans l'université, là on est en... en période d'examen ou fin d'examen, on pense à la prochaine année, certains sont inquiets, est-ce qu'ils auront la validation de leur année? Je vois beaucoup d'étudiants stressés en ce moment, c'est normal?
Moi je suis enseignant, je suis à la fois directeur d'un service commun, mais je suis aussi enseignant. Je ne sens pas ce stress par rapport aux étudiants que j'ai devant moi chaque semaine, que ce soit en première année de licence, que ce soit en master. Personnellement, je ne ressens pas ce stress, je dois dire. Mais là, je suis en tant que praticien. Et là aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, par exemple, il est bien certain que c'est aussi l'importance d'un service tel que celui-là, où les étudiants, finalement, ils peuvent s'exprimer d'une autre façon vis-à-vis des conseillers du service qu'ils ne peuvent le faire vis-à-vis d'un enseignant qui est leur enseignant. Il y a une relation qui est différente. Et donc... Moi, je ne fais pas d'entretien, je ne suis pas opérationnel au sein du SFIO. Donc, en tant qu'enseignant, je dois dire que je ne ressens pas ce stress, mais peut-être pour les raisons que je viens d'évoquer.
Je sens vraiment.
Mais peut-être pour les raisons
peut-être
que je viens d'évoquer.
Plus que les années précédentes, beaucoup de pression et beaucoup de crainte de résultats. En plus, beaucoup d'étudiants ont des activités annexes maintenant.
De plus en plus. Oui.
Donc, ce qui leur donne une pression supplémentaire et un travail excessif en fin de période.
Mais si on revient d'ailleurs à la question que vous posiez tout à l'heure par rapport à des coûts d'inscription dans certaines structures, effectivement, on a, je dirais, des étudiants qui sont issus de milieux sociaux qui ne sont pas toujours très favorisés. Et donc, ça, c'est un vrai problème qui convient, notamment dans notre réflexion, peut-être dans la construction de l'offre de formation et de nos rythmes aussi. Comment prendre en compte le fait que de plus en plus d'étudiants sont amenés à avoir des activités professionnelles de subsistance, je dirais. Ça, c'est un vrai problème qu'il convient de. Et je peux pas. Encore une fois, là, je reviens plus en tant qu'enseignant. Je ne suis pas toujours convaincu que dans l'amphi, on prenne en compte. Là, ce n'est pas le directeur du SFIO qui parle, hein, c'est encore une fois. Et sans avoir la prétention d'avoir une vue globale. Je réagis là par rapport aux étudiants que j'ai dans les amphis où j'interviens.
Mais c'est vrai que si on cumule le travail de nuit, si on cumule les stages, les rapports de stage à rendre, voire les concours à passer pour passer d'une année à l'autre, enfin au moins des pas des concours, mais
oui, parce que ce ne sont pas des concours.
Hein,
ce sont
des
je dirais que les fins d'année, même si elles sont intenses pour les étudiants, on n'est quand même pas dans une logique de concours. On est dans une logique d'examen.
C'est ça, oui.
D'accord, quand même. D'accord. Quand même, hein. Alors effectivement, pour l'instant, après, il faut analyser ça de façon plus spécifique. Le passage parfois M1 M2 peut être ressenti comme notamment vers ce que l'on appelle encore pour l'instant les M2 professionnels, peut-être parfois ressenti par les étudiants comme une phase stressante. Encore que je ne sois pas convaincu que dans tous les M2, là, on est, encore une sélectivité très forte. Mmh. Parce qu'après, il y a la logique de l'offre et de la demande. Hein.
Peut-être, d'ailleurs, ce ne sont pas forcément les moins bons qui sont les plus inquiets.
Tout à fait, oui.
Tout à fait. Curieusement, oui.
Donc, ce que je voulais aussi, donc pour revenir un peu, c'est de dire que... Donc, on a un ensemble d'actions en amont, par exemple au niveau du service, comme je le disais tout à l'heure, des actions d'information vers les lycéens et tout le milieu secondaire et puis les parents d'élèves. On participe également, je dirais, lors, par exemple, notamment lors de la phase d'inscription, à des entretiens individuels. On participe à la semaine de rentrée, hein, toute la semaine de rentrée qui permet de, je dirais, la phase d'intégration des nouveaux étudiants. Ensuite, il y a tout un ensemble d'actions qui accompagnent les étudiants pendant qu'ils sont à l'université. Soit des actions, je dirais, des entretiens à titre individuel, qu'il faut maintenir parce que c'est une des rares structures dans cette université où ce type de service apporté à l'usager peut être apporté. Mais en même temps, il faut réfléchir à un juste équilibre dans la mesure où on a encore, grosso modo, 18 000 étudiants sur cette université. Lorsqu'un conseiller reçoit à titre individuel un étudiant, il y en a 17 999 qui sont dans la file d'attente. Donc c'est de conjuguer ces actions-là qui sont nécessaires, il n'y a que ce type de service qui puisse apporter ce service aux usagers, mais en combinant cela avec des actions plus collectives pour aussi apporter un service à l'ensemble des étudiants.
Alors, on parlait il y a quelques instants donc, d'examen, donc de validation, j'allais dire, d'une période universitaire. Et pour ceux qui n'arrivent pas à passer à l'étape supérieure dans les conditions qu'ils avaient imaginées, est-ce que vous pouvez être un bon guide ?
Alors, ce que nous les amenons, le rôle d'un service tel que celui-là, c'est, à condition que les étudiants aient bien conscience des services, on a tout un problème de communication, bon, peut-être que ce soir on peut concourir à ce que le service et son directeur aient une action de communication un peu plus performante que d'habitude, c'est-à-dire de bien faire comprendre aux étudiants quels sont les services que ce service peut leur apporter. Et donc, je dirais que les principales missions, c'est d'une part d'aider, avant qu'ils n'arrivent en situation lorsqu'ils arrivent au pied du mur, qu'en fin d'année universitaire, que le passage se fait mal ou ne se fait pas, c'est que de les aider autant que faire possible à anticiper ce type de problème. Anticiper, c'est d'abord les faire réfléchir sur, je dirais, les secteurs d'activité, les métiers, leur faire prendre conscience de ce qu'ils aiment, leur faire prendre conscience aussi de les amener à structurer leur réflexion, leur questionnement. Parce que parfois, les étudiants qui viennent nous voir ont trop tendance à dire, ben voilà, je suis là, qu'est-ce que vous me proposez? Et en fait, le rôle des conseillers du SUIO, c'est au contraire de les amener alors, aussitôt que possible dans leur cursus, et non pas en arrivant en période de fin d'année, de structurer leur questionnement et de les amener, de leur ouvrir des pistes, mais à eux aussi de trouver les réponses, et pas des réponses clés en main, quoi.
Alors, c'est vrai que je suis parfois surpris de voir des étudiants brillants, intelligents, qui n'ont pas un projet bien défini, alors que d'autres, peut-être un peu moins brillants, savent exactement ce qu'ils veulent et ils y arrivent.
Et c'est là aussi, c'est là aussi toute l'importance de conjuguer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des actions, des entretiens individuels. Parce que là, en fait, dans l'entretien individuel, c'est l'étudiant qui vient vers nous. Mais aussi d'aller vers eux, dans des actions peut-être plus collectives, pour leur faire prendre conscience, encore une fois, des problèmes, des questions qu'ils ont à se poser et de ce qu'on peut leur apporter. Parce que c'est dans ces actions plus collectives où on va vers l'étudiant que finalement on peut faire prendre conscience à ceux qui se laissent conduire finalement par les études sans trop se poser de questions, qu'ils ont à s'interroger suffisamment tôt dans leur cursus pour éviter les problèmes difficiles en fin de cursus parfois.
Alors Patrick Kenny, si on prend le cas des étudiants étrangers, est-ce que le fait que des lois évoluent, des réglementations évoluent, vous complique la tâche dans justement tout ce travail d'information et d'orientation ?
Nous sommes, je dirais, ce service est rarement confronté, enfin, ça arrive, c'est-à-dire que notamment il y a des étudiants étrangers qui arrivent de façon assez décalée dans l'année pour des problèmes de visa, etc. Là on est amené parfois à... On est confronté à des situations assez délicates, dans la mesure où les étudiants arrivent avec une vision parfois erronée de l'offre de formation. Et ils ont à se repositionner par rapport à des formations dont ils n'avaient pas imaginé l'existence. Et là, ce n'est pas toujours évident parce que les étudiants sont là. Et on n'a pas forcément les réponses, je dirais, dans l'offre de formation qui sont bien adaptées à leur attente.
Alors, quant aux perspectives d'avenir, beaucoup d'étudiants ont un projet qui va vers la professionnalisation. D'autres sont peut-être de plus en plus rares, à vous de me dire, vers la culture générale. Ça existe encore ?
Oui, je crois que c'est indissociable. C'est-à-dire que... et c'est là aussi, il faut... Ce qu'il faut éviter, pardon, c'est d'avoir tendance à répondre à une demande du marché qui serait des salariés clés en main. Et utilisable immédiatement et donc jetable dans les mêmes conditions. Donc c'est là aussi, c'est un juste équilibre Alors, c'est plus facile à structurer cet équilibre sur une formation sur 5 ans, sur un master, c'est-à-dire un juste équilibre entre, je dirais, toutes les connaissances générales, les connaissances de fond qui vont permettre ensuite à l'ancien étudiant d'évoluer et de s'adapter et d'évoluer et de rebondir. Et puis une action, je dirais, complémentaire de professionnalisation. Et donc, c'est le juste. Il ne faut pas opposer les deux, mais bien conjuguer les deux. C'est cette conjugaison qui fera que le futur salarié pourra, dans le cadre de la formation continue, la formation tout au long de la vie, redynamiser, retrouver de nouvelles compétences. Mais au départ, il faut s'asseoir sur un. Il faut que ça s'appuie sur un socle de connaissances générales fortes.
Alors, dans un cadre un peu mondial, où les choses évoluent, à vous peut-être de nous dire si elles progressent, comment réagir à ces contextes à évolution forte et rapide en termes de d'offres, et notamment en termes d'analyse de ce qui est essentiel, de ce qui va être utile, nécessaire.
Alors, ce que nous essayons, parce qu'on a quand même pas mal de projets au niveau du service, au niveau de l'université, c'est-à-dire, parce que là, qu'on le veuille ou non, on peut avoir à titre de citoyen, à titre d'électeur, une position, mais à un moment donné, il faut aussi prendre en compte la réalité. Mmh. Et donc, la réalité, pour nous, c'est de dire... comment anticiper au mieux ? Comment anticiper au mieux ? Comment informer au mieux, je dirais, en termes de vision du marché ? Alors, sachant qu'on ne peut pas faire des projections à 4 ou 5 ans, mais au moins offrir aux étudiants une vision marché par secteur aussi réaliste que possible. Donc là, c'est des actions que l'on doit d'ailleurs déployer dans les prochaines années, qui existent, mais de façon pas suffisamment structurée, pas suffisamment importante. Là, il y a toute une activité à déployer. Il y a aussi toute une activité, je dirais, en termes de vision de marché, mais on parle beaucoup du LMD. Mm-hmm. Le LMD, ça a la volonté de mettre en place un référentiel européen. Alors là aussi, on peut en penser ce que l'on veut, mais il y a au moins un aspect qui devrait être positif, c'est-à-dire en termes d'insertion, d'offrir aussi à nos étudiants diplômés un champ d'insertion beaucoup plus large.
Une mobilité possible, voire je ne sais pas si elle est souhaitable, elle est sur le papier pour l'instant.
Ce que nous souhaitons faire au niveau du, pour l'instant, ce qu'on appelle le SUIO, et peut-être que d'autres structures sont amenées à être mises en place, c'est-à-dire de développer par exemple une vision marché, par exemple, au niveau au moins de l'espace européen. C'est-à-dire que moi je suis convaincu, alors partant des secteurs de formation de notre université, je suis convaincu qu'en regardant dans l'espace européen, puisque c'est le LMD, que tous les pays n'ont pas les mêmes potentialités d'emploi selon les grands champs. Et donc d'offrir, donc de faire une, je dirais, avoir une vision avec une intersection entre partant de l'offre de formation et des spécificités de notre université, d'avoir une vision au niveau européen, mais une vision différenciée. C'est-à-dire pour faire, je vais dire n'importe quoi parce que je n'ai pas de données, mais par exemple, si vous faites de la chimie des polymères, tous les pays européens n'ont pas la même... n'ont pas la même potentialité. Donc d'avoir cette réflexion en amont, mais encore une fois, on ne va pas remplacer la PEC, on ne va pas remplacer cet organisme-là, bien sûr, la DARES, mais en s'appuyant, en partant de l'offre de formation de l'université. Et de voir, donc ça c'est un de nos projets, et donc d'avoir des actions d'information en vision marché dédiées à nos étudiants. Alors en partenariat avec notamment les euroconseillers de la NPE, par exemple, ou de la PEC, pour avoir là des données donc spécifiques qui permettent à nos étudiants là aussi de se prépositionner autant que faire se peut. Parce que dans les universités en France, on a beaucoup d'actions, de partenariats, c'est notamment le rôle du Centre international, mais qui sont des actions, je dirais, qui sont de relations de partenariat entre institutions, entre universités, pour la mobilité, etc. Mais on doit absolument développer des actions, je dirais, qui portent davantage sur le marché de l'emploi, mais encore une fois, dans une vision au moins européenne.
Alors, c'est vrai que les questions que se pose l'université en termes de prospective, finalement, les entreprises, est-ce qu'elles ont autant de réflexions à long terme sur la formation de leur personnel, les visions de ce que devront être les gens qui vont travailler dans ces entreprises ? J'ai l'impression qu'elles pensent relativement à court terme, au moins les entreprises françaises, non ?
Ça, c'est vrai, c'est toujours la difficulté. C'est-à-dire que... Mais il n'y a pas que les entreprises. Hein. Moi, je vais prendre un exemple aussi, par exemple. C'est vrai que les entreprises ont toujours beaucoup de difficultés à se projeter. Ils savent à peu près à 6 mois ce qu'ils veulent, mais au-delà...
La gestion prévisionnelle.
Mais voyons, par exemple, ce qui se passe au niveau de l'enseignement secondaire. Il y a aussi un véritable problème. Le ministère connaît l'évolution démographique. Il a une vision, on peut... Là aussi, il sait très bien le nombre de postes qu'il va à échéance de 5 ou 10... Enfin, au moins de 5 ans, il devrait être capable de nous dire dans tel secteur de formation, il nous faudra autant de postes de certifiés. Ça, on ne l'a jamais. Et pourtant, les étudiants doivent se prépositionner très rapidement dans leur parcours de formation. Et qu'est-ce que l'on a, en fait ? Parce que là, vous me parlez des entreprises, mais il n'y a pas que les entreprises hein, qui nous posent ce problème. Et là, ce que l'on a, en fait, c'est au moment du budget, c'est au moment de novembre-décembre qu'on a l'on connaît le nombre de postes qu'il y aura pour l'an prochain dans telle discipline dans les lycées. Et là aussi, c'est un véritable problème parce que, encore une fois, comme je le disais, les étudiants doivent se prépositionner dans leur parcours de formation bien en amont. Et donc là, on a toujours ce problème de constante de temps. Tout à fait différent entre la vision marché, finalement à court terme, des entreprises, mais aussi des institutions, et puis une constante de temps au niveau de la formation qui est beaucoup plus longue. D'où aussi l'importance d'avoir un équilibre judicieux entre les formations généralistes, enfin disons les connaissances de base, et puis l'aspect professionnalisant qui doit être la cerise sur le gâteau, mais qui doit avoir un juste équilibre.
Tout cela, ça doit être suivi aussi, de la formation des personnels de l'université, justement, pour réagir aux grands enjeux de ces siècles qui viennent.
Hein. Oui, oui.
Donc, comment on s'est assuré la mise à niveau, on va dire,
hein. Vous me parliez de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mmh, c'est un véritable... Ça se met en place au niveau des universités, mais c'est quand même encore, je dirais, dans une phase de balbutiement. Mmh. Donc, nous, ce que faisons, c'est que nous nous rapprochons, je dirais, davantage de structures telles que la PEC, telles que la NPE, pour voir comment eux préparent leur personnel. Parce que finalement, en toute proportion gardée, on est dans la même problématique sur la dimension insertion professionnelle. On est un peu dans la même problématique. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que les personnels de ce type de service, finalement, ils ont des fonctions assez proches de celles des conseillers de la PEC et de la NPE, si ce n'est qu'ils s'adressent à des étudiants de l'établissement et non pas on n'est pas en situation, ce n'est pas notre rôle de suppléer ou de compléter... de remplacer les institutions dont c'est la mission. Mais on est sur des fonctions quand même assez... des activités sur la partie insertion, hein, j'entends, qui sont assez proches. Mmh. Et donc, on a des partenariats avec ces structures qui interviennent, qui nous aident à monter des actions. Mais aussi, ce que l'on voudrait mettre en place, c'est des actions avec eux, je dirais, pour justement la réflexion sur la formation des personnels et comment ils font évoluer les compétences de leur propre personnel pour que l'on puisse en inspirer, nous.
Non. Une dernière question avant de nous quitter, Patrick Kinis. Si vous aviez un vœu à formuler maintenant, ce serait lequel pour les années ou l'année prochaine ?
Un vœu à formuler, c'est-à-dire sur quel type de...
Un désir pour que ça fonctionne mieux, pour que vous soyez encore plus efficace. Qui pourrait vous aider ?
Qui pourrait mieux aider ? Je crois que c'est au niveau de cette université, de la direction de l'université. Il y a un certain nombre de projets qui sont en cours. Il y a, par exemple, il y a deux éléments forts qui apparaissent actuellement. Il y a c'est plus qu'un projet d'ailleurs, hein, c'est une orientation très forte du ministère sur l'aide à la réussite en licence. Donc là, il faut structurer des choses pour renforcer ces actions-là. Il y a aussi... toute une action sur la phase aval qui est la mise en place de bureaux d'aide à l'insertion. Et je crois qu'il faut accentuer cette démarche-là, encore une fois, pour apporter davantage de cohérence, apporter davantage de lisibilité, notamment vu du monde extérieur. Et puis je voudrais conclure là-dessus. On est aussi sur un grand projet, je dirais, au niveau inter-université, de plateforme d'insertion professionnelle, là aussi en partenariat avec tous les acteurs de la région, qui doit s'appuyer sur les bureaux d'aide à l'insertion dans chaque université. Donc là, il faut passer à l'acte.
Patrick Kinis, je vous remercie.
Merci encore, au revoir.